Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de choisir Radio Capi pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. Le franc congolais connaît depuis quelques jours une appréciation face au dollar américain après une forte chute observée vers fin juillet et début août 2023. Cette appréciation serait due entre autres aux mesures prises par le gouvernement congolais, dont notamment le paiement en francs congolais pour toute transaction auprès des banques commerciales. Bon nombre de spécialistes pensent néanmoins que les mesures prises par le gouvernement n'auront qu'un effet éphémère, car il est fort à craindre qu'on assiste à nouveau à une dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Une certaine opinion pense plutôt le contraire et nous vous soumettons au débat ce que vous avez comme point de vue par rapport à ce débat. Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969. Vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiocapi.net car toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Marcel Ngombombala Keba ainsi que Pierre Diassinois et J.R. Lungembo Luabung Anji. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous avons le plaisir, le réel plaisir d'accueillir en ligne Noël Tchani, Mwadiam Vita, des Pères et des Mères. Bonjour Noël Tchani. Bonjour Noël Tchani. Voilà, on a des petits soucis avec notre ligne. Je crois que depuis Mbujimayi où séjourne Noël Tchani, elle pourrait intervenir en tant qu'économiste et nous éclairer sur cette question. Vous êtes nombreux à voir, qui continuent à redouter le rebond ou encore le rebondissement ou le yo-yo que connaissent souvent les taux d'échange sur les marchés d'échange. Alors donc, wait and see, comme disent les Américains, nous allons voir la suite dans des semaines. Mais selon certains économistes, il prévoit déjà ce rebond pour la semaine qui va suivre. Alors on va peut-être prendre les auditeurs qui sont peut-être en ligne. On commence par Maître Omar. Maître Omar qui est déjà là. Maître Omar, vous êtes avec nous en ligne ou Amos? Voilà, donc ils seront là d'un moment à l'autre également. Alors le temps pour nous de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également participer à cette émission en composant les 0 au 81 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69. Vous êtes nombreux à avoir lu et commenté ces sujets. Nous allons en profiter en attendant que la ligne puisse s'améliorer. Fred Kokolo, vous nous avez écrit. Alors, vous avez dit dans votre message, bonjour Radio Capi, les mesures sont très bonnes et encourageantes. C'est seulement, le gouvernement est appelé à combattre sa maladie de l'inachèvement en mettant en place des mesures efficaces de suivi et accompagnement de ces mesures en vue de leur pérennisation. Junior Bompongo, qui nous écrit depuis Mweneditu, ce n'est qu'une courte joie. D'ailleurs, au moment où je vous laisse ce message, 10 dollars américains se négocient au taux de 24 000 CDF chez les cambistes. Comme quoi, les mesures prises par les autorités compétentes auraient manqué des mécanismes d'accompagnement. Patrice Mouderoy. Patrice Mouderoy, vous êtes à Bukavu. À Bukavu, vous nous lancez ces messages. Ces mesures ne sont que des courts termes, car le grand facteur qui peut lutter contre la dépréciation du franc congolais, c'est la production interne. Et pourtant, notre économie reste extrêmement extravertie. Voilà, Amos, vous êtes en ligne. Amos, bonjour.
Bonjour, JL. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous avez la parole. Quelle est votre réaction?
Merci bien. Au fait, pour ce qui est de la appréciation de la monnaie congolaise, moi je pense que cette question n'a été que de très courte durée. Et pour moi, c'était juste de la frappe. Pourquoi je le dis? Parce que quand on a annoncé cette mesure, j'ai vu beaucoup de gens chanter, danser, disant que cette fois-ci, les taux viennent de baisser et que ça va essayer de jouer sur le prix des biens de première nécessité sur le marché. Malheureusement, j'y ai. Je tiens à vous dire que cette situation n'a profité qu'à des cambistes. Parce que pour eux, ils ont commencé à donner des francs à 2200, 2100 francs. Et la population que nous sommes, n'avions pas de choix, pas été victimes. Mais si vous essayez de voir, que ce soit les maisons de communication, on achetait toujours et on continue à acheter 100 unités à 2600 francs congolais, qui équivalent à 1 dollar. Que ce soit dans des banques, le taux n'est jamais allé en deçà de 2500. Et je me suis demandé, est-ce que nos dirigeants ont été au courant de cette situation? Parce qu'ils revenaient à nos dirigeants de prendre des mesures afférentes pour quand même aider la population et ne pas occasionner l'escroquerie de la population par des cambistes. Parce que imaginez-vous, vous cherchez des francs, on vous donne à 2200.
Mais ce qui étonne plus d'un, Amos, si nous rentrons, on fait un pas en arrière, je crois que nous avons une mémoire pas très courte, même le gouvernement Ilunkamba, je pense que le ministre Jean-Lucien Boussa faisait partie de ce gouvernement, et ils avaient pris des mesures incitatives aux côtés de ces mesures et des mesures pour permettre à ce que qu'on puisse stabiliser la monnaie. Il y avait 26 mesures, si ma mémoire est très bonne. Alors, avec le gouvernement Samalo Kondé, c'est pareil. Alors, comment on n'arrive pas, de manière efficace, à stabiliser notre monnaie?
Justement, c'est là que je voulais aller. J'étais à préciser et reconnu que, je reconnais que la dépréciation de la monnaie, actuellement, est une question mondiale. Mais cela dépend d'un pays à un autre, de l'organisation interne de chaque pays, du leadership dans chaque pays. Je vous donne seulement des cas à Bukavu. Aujourd'hui, et comme certains internautes ont eu à le dire, l'économie de notre pays demeure extravertie. C'est-à-dire, nous dépendons de tout de l'extérieur. Aujourd'hui, à Bukavu, JR, la population est en train d'aller mendier des sambousa au Rwanda. Je suis en train de voir des camionnettes qui transportent du sombé en provenance du Rwanda pour la RDC. Ça, c'est une honte pour mon pays. Et vous pensez qu'un tel pays où on dépasse de tout de l'extérieur, comment expliquer qu'on peut tromper la population, qu'on peut baisser le taux du dollar? C'est pratiquement impossible, c'est direct. C'est rêver état debout. Voilà pourquoi moi je pense, si du moins nos dirigeants pouvaient réfléchir qu'on peut baisser le taux du dollar, il y a des préalables.
Quels sont ces préalables, selon vous?
Très bien, créer des usines pour qu'on puisse plus dépendre de tout de l'extérieur. Et là, nous serons aussi en train d'importer au lieu d'exporter.
Oui, mais aujourd'hui, les zones économiques sont effectives.
Très bien. Et à part ça, l'agriculture. On devait aussi beaucoup investir dans l'agriculture. Ça aiderait. Vous vous souviendrez avec l'opinion que j'ai vu encore, il y a encore deux ans, les combattants de l'IDPS ont eu à baisser les taux à 1500 francs dans les réseaux sociaux. Ce qui n'a jamais été la réalité sur terre. Moi, je pense hier, si vous essayez d'analyser ce que nous avons vécu ces deux semaines avec l'appréciation de la monnaie congolaise,
c'était de la comédie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amos. Vous qualifiez cela de la comédie. Mais je pense que Omar n'a pas peut-être la même lecture. Maître Omar, vous êtes avec nous, Kigalo? Maître Omar.
Je suis là, très cher JR.
Voilà, vous avez la parole. Après avoir écouté Amos, quelle est votre réaction?
Merci beaucoup, JR, du verbe que vous m'adjugez. Merci de votre retour, ça nous apaise. Alors, JR, avant d'intervenir par rapport à mon prédécesseur Amos, que je salue, j'ai toujours dit, et je le répète, comme disait Oufette Boigny, lorsque l'économie est enrhumée, la politique
tous.
Aujourd'hui, nous remarquons des choses, comme vous l'avez dit, dès l'éliminaire de votre cogitation. La dépréciation du franc congolais et la hausse de prix des produits de première nécessité. Cette situation froisse les pays, on doit se le dire, parce que rien ne marche. Alors, moi, contrairement à Mons, je salue les mesures prises par les gouvernements. Car nous l'avons toujours dit, si on lit l'histoire économique de ces pays, l'État a toujours été gendarme. Il s'est limité à mettre de l'ordre et l'harmonie. Mais depuis l'année 70, l'État congolais est devenu interventionniste. Il a le devoir de créer des entreprises, mais aussi de réguler l'économie. C'est dans son rôle de régulateur que le gouvernement a pris des mesures pour soigner cette maladie économique que nous constatons. Mais là où je rejoins Amos, c'est par rapport à l'efficacité de ces mesures. Très cher JR, Akerlof disait, l'efficacité des résultats d'un problème dépend de la manière dont on l'a abordé. Ici, il est un problème économique. Il est démontré en économie que les mesures prises doivent être concertées. À part les domaines où il y a les monopoles, les courants, l'eau, les transports, les autres domaines de l'état économique doivent être pris de manière concertée. Est-ce qu'on a associé les marchands des produits? Est-ce qu'on a associé les opérateurs
économiques?
Voilà pourquoi vous fixez des prix de manière unilatérale et ça n'arrive pas à être en adéquation avec la réalité. Vous pouvez dire les prix sont baissés, le dollar a été stabilisé. Avez-vous interrogé les gens qui vendent? C'est ça le premier, pour la première difficulté. Pour plus d'efficacité, il faut, avant de prendre des mesures pour réguler un problème économique, réunir les opérateurs qui sont concernés, car il y a des théories en matière économique.
Donc comme les autres, Omar, vous estimez que ce n'était pas une appréciation de la monnaie locale réelle?
Non, non. On a pris des mesures, on a voulu stabiliser, mais sans tenir compte des vrais acteurs. C'est démontré en politique économique. C'est lui qui...
Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, quelles doivent être les raisons, disons des vraies raisons, qui font qu'aujourd'hui, la stabilité de la monnaie puisse être vraiment un véritable casse-tête pour plusieurs économistes congolais, des grands d'ailleurs, parce que quand je fais un pas en arrière, je vois Moulumba Lokoji, alors premier ministre en 90, et n'a pas pu stabiliser la monnaie jusqu'à ce qu'il est parti mourir, des raisons mémoires d'ailleurs.
La première raison, la première, je dirais, c'est la spéculation. J'ai nous sommes un état de droit comme les stipules, comme les discours de la Constitution. Tous les domaines sont réglementés. Le domaine d'échange est réglementé par une loi. C'est la Banque centrale qui fixe les prix et les opérateurs qui opèrent sur le terrain doivent se conformer à ces taux. Alors, de lors, il n'y a pas de contrôle. Alors que la loi a prévu qu'il y ait un mécanisme de contrôle. Dès lors, ceux qui opèrent l'échange n'ont même pas de permission ou des agréments de la banque. On aura toute spéculation. Moi, je veux dire, j'ai expérimenté sur un même coin. Celui-ci change à 22, l'autre 22.5, l'autre 23, l'autre 24. Donc la première cause, les premiers facteurs de cette dépréciation, c'est la spéculation.
Voilà, Maître Omar, parce que vous avez quelques notions de l'économie, nous vous gardons un peu en ligne, il est temps peut-être de retrouver notre invité, je crois que la ligne s'est améliorée, et puis on va accueillir également Alidor, qui est déjà en ligne. Alors, Noël Chani, Mondia Vital de Père et Némère, vous êtes avec nous?
Oui, je suis en ligne. Bonjour, Alain.
Voilà, c'est plutôt J.R. Lungembo qui est en ligne. Alors, J.R. voilà, je reviens à vous, pour vous par rapport à tous les commentaires que vous avez faits autour de cette situation relative à l'appréciation de notre monnaie. Est-ce que vous dites, comme nos auditeurs, que cette appréciation n'a jamais été réelle?
Bon, je constate que il y a une tentative de pouvoir stabiliser la monnaie en prenant un arsenal de mesures, mesures qui sont prises dans un environnement bien particulier, dans un cadre précis. Et pendant que tous les Congolais souhaiteraient que la monnaie soit stable, parce que de la stabilité dépend aussi, de la stabilité de la monnaie dépend aussi la stabilité du pouvoir d'achat. Mais il faut faire les choses d'une certaine façon pour que les résultats soient réels et soient durables, soient pérennes. Qu'est-ce que moi je constate? Je constate qu'il y a un peu du méli-mélo. Il y a tout le monde qui est mélangé maintenant. Chacun pense pouvoir être spécialiste de la monnaie. Il semble pouvoir trouver une solution, mais les choses ne se passent pas comme ça dans un monde réel. Je parle déjà de ce qu'on a appelé les mesures présidentielles de stabilisation de la monnaie. Déjà, l'utilisation des mesures présidentielles, ça soulève beaucoup de questions. Où on voit une réunion autour du chef de l'État, du président de la République, mais qui est invité à cette réunion-là? L'IGF, les ministres sectoriels de l'économie et des finances, la Banque centrale du Congo, les banques commerciales, et je souligne essentiellement étrangères, parce qu'elles sont toutes étrangères. Et quand on voit ce cadre-là, on se pose la question, est-ce que c'est comme ça qu'on gère la monnaie dans un pays indépendant, souverain? Ma réponse est non. Pourquoi? Parce que dans la Constitution de la République démocratique du Congo, quand vous lisez l'article 176 de la Constitution, il est dit clairement que la Banque centrale a pour mission, un, la conception, la mise en œuvre de la politique monétaire, la gestion des fonds publics, le rôle des caissiers de l'État, la supervision du secteur bancaire, le rôle des conseillers économiques et financiers du gouvernement. Ça, ce sont des missions qui sont reconnues à la Banque centrale. Mais on dit aussi que dans la réalisation de ces missions, la Banque centrale est autonome et indépendante. c'est-à-dire qu'elle n'est pas sujet, elle ne doit pas se soumettre à la volonté de qui que ce soit. Or, est-ce qu'une banque centrale peut être indépendante lorsqu'elle se voit convoquée au même titre que toute autre institution de la République par le chef de l'État? Et c'est dans ce cadre-là qu'on parle de régime soi-disant de stabilité monétaire. Je pense que dès le départ, le cadre est mauvais. Et quand le cadre est mauvais, ça ne donne pas confiance qu'on peut aboutir à des résultats durables. On peut avoir donc des fluctuations, les gens qui agissent sur émotion, le jour suivant quand on annonce des mesures, on voit les taux d'échange s'apprécier en faveur donc du franc congolais pour quelques jours. Mais aussitôt une semaine après ça, on retourne à la case de départ parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, les taux d'échange déjà à Kinshasa tournent autour de 2400-2500. Donc on n'a pas changé grand-chose. Alors, la question maintenant est de savoir quelle est la raison principale fait que la monnaie congolaise se déprécie. Ma réponse est que depuis un certain temps, l'État congolais vit au-dessus de ses moyens. On a élaboré un budget national annuel de 16 milliards de dollars. Ce budget veut dire qu'on va récolter pendant l'année des recettes publiques de 16 milliards et on va dépenser 16 milliards aussi en dépenses publiques. Mais nous sommes aujourd'hui au mois d'août. On a déjà fait plus de la moitié de l'année. Quand on regarde les réalisations du début de l'année jusqu'à aujourd'hui et on projette ça jusqu'à la fin de l'année, on constate qu'à ce stade ici, on a plus ou moins de recettes publiques de l'ordre de 5 milliards de dollars. Cela veut dire que si on continue au rythme actuel, on va arriver à la fin de l'année avec les recettes publiques de l'ordre de 8 à 9 milliards de dollars, dans les meilleurs des cas. Ce que ça veut dire, c'est que les recettes de 16 milliards de dollars qu'on avait prévues au début de l'année sont surestimées. Or, on maintient l'autre côté des dépenses publiques au même niveau, sinon on engage même plus de dépenses que ce qu'on avait prévu. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un gros déficit budgétaire qui est en train d'être réalisé et que d'ici la fin de l'année, on aura peut-être des recettes publiques de l'ordre de 8 milliards, tandis que les dépenses publiques seront de 16 milliards, d'où un déficit prévisible de près de 8 milliards de dollars. La question est de savoir comment est-ce qu'on finance ce déficit public-là. Pour l'instant, il y a trois options qu'on peut regarder pour financer le déficit public. Un, il faut recourir à l'utilisation des réserves d'échange. Nous avons tous chanté et applaudi que les réserves d'échange de la Banque centrale du Congo aient augmenté dans les environs donc de 5,8 milliards de dollars. C'est une performance extraordinaire par rapport à ce qu'on a connu il y a 4 années ou il y a 5 ans. Et on salue cela. Sauf que ces réserves d'échange-là ne sont pas suffisantes pour faire le rôle de stabilité de la monnaie dans un cas d'attaque sur la monnaie comme celui-ci. Pourquoi? Parce que déjà, quand on regarde les 5,8 milliards de dollars de réserves d'échange, elles représentent à peine 2,7 fois la couverture donc des importations. 2,7 mois de couverture d'importation. La règle, c'est qu'il faudrait au moins 3 mois de couverture des importations. Nous sommes en deçà de ce qu'il faut, rien qu'en utilisant ce critère-là, de 3 mois de couverture des importations.
Oui, alors Noël Tchani, ici nous partons sur les principes des bases de l'économie. Quand il s'agit soit de l'appréciation ou de la dépréciation, on évoque toujours l'effet offre et la demande. L'offre et la demande. Est-ce qu'à ce jour, la situation que traverse la RDC, on se retrouve dans ces principes-là?
Oui, bien sûr qu'on évoque toujours la question de l'offre et de la demande. Mais j'aurais bien voulu terminer ma présentation avant de pouvoir aborder cette question de l'offre. Donc, mais en résumé, je peux dire que l'option d'utiliser les réserves d'échange pour stabiliser la monnaie va s'estomper. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment de réserves. Donc, on n'a pas ce qu'il faut pour intervenir régulièrement et équilibrer l'offre et la demande des devises étrangères, donc dans l'économie congolaise. La deuxième option, c'est pour l'État de pouvoir emprunter sur les marchés financiers pour financer son déficit public. On a tenté de lever, à travers l'émission des obligations du Trésor, de lever 30 millions de dollars.
Résultat, on a récolté que 14 millions de dollars. Donc, échec total de ce côté-là, parce que la crédibilité financière de l'État reste encore sujette à caution.
OK.
Troisième option qui reste maintenant pour financer le déficit public énorme, c'est de recourir à la planche à billets. Malgré les affirmations qui disent le contraire, le déficit actuel est financé à travers la planche à billets. C'est ça qui crée donc la surliquidité de la monnaie nationale dans l'économie nationale. Surliquidité maintenant qu'on essaie d'absorber en disant on a trop de francs congolais, moins de devises. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit absorber donc ce
parce que ce n'est, pas, ce n'est plus un secret, on a dû retenir les salaires des fonctionnaires, je ne sais pas, c'est par rapport à un mois
tout
ou deux
mois. Tous les mois de juillet.
Oui, tous les mois de juillet.
Ouais. Exactement. Alors, maintenant, parce qu'il y a cette surliquidité-là, la Banque centrale intervient maintenant en disant on va absorber la surliquidité en déployant les instruments de politique monétaire. Et qu'est-ce qu'on a fait? Acte premier, on a augmenté le taux de réserve, le taux directeur.
Le taux directeur, oui.
De 9% à 11%. En moins d'un mois, on augmente encore donc de 11% à 25%. Mais, s'il vous plaît, Tchéa, lorsqu'on augmente le taux directeur à 25%, ça veut dire que les taux commerciaux, les taux d'intérêt que les banques commerciales vont pratiquer dans cette économie-là pour prêter à leurs clients, ces taux-là vont se trouver dans les environs de 30-35%. Mais quelle est cette économie-là qui marcherait avec des taux d'intérêt donc de ce niveau-là?
Donc c'est possible.
Même si on cherche donc à tuer l'inflation, mais on tue aussi l'économie voilà. Par le même mécanisme.
Alors, Noël Tchani, on va revenir à vous parce qu'il y a des auditeurs qui vont intervenir et puis vous allez réagir d'un moment à l'autre. Alors, on revient à vous, Omar Kigalo. Votre réaction après avoir réécouté Noël Tchani?
Oui, je salue M. Noël Tchani, dont j'ai toujours été opposé par rapport à son projet des pères et des mères, mais aujourd'hui, je pose totalement son point de vue économique. C'est pertinent. Mais au-delà de cela, il faudra ajouter ceci. Ce qu'il dit me fait penser à une règle inventée par, écrite par un auteur congolais, Gordon Boy. La stabilité économique d'un État dépend de deux piliers. La politique budgétaire et la politique monétaire. C'est là le nœud du problème, très cher Gilles. Il a évoqué plusieurs théories ici, notamment la politique budgétaire. L'ensemble des mesures qu'on prend pour bien gérer les budgets de l'État. Dès lors, il y a mauvaise gouvernance, on aura comme conséquence tout ce qu'on a vu. Deuxième chose, la politique monétaire. L'ensemble des mesures qu'on prend pour stabiliser la monnaie. Dès lors, la monnaie n'est pas stabilité, l'économie est froissée et la vie sociale n'est pas possible. Au-delà des mesures qu'il a proposées, moi je pense qu'il y a aussi les contrôles économiques. La loi sur les prix existe depuis 1961. La loi qui dit qu'on ne peut pas poser ou fixer des prix en dehors des marges bénéficiaires établies. Est-ce que la police économique travaille pour passer dans chaque maison pour voir si les opérateurs respectent? Au-delà des aspects économiques qu'il a évoqués, il y a une approche juridique sérieuse. On doit contrôler les règles qui sont prises. Michel Alotte disait, le droit n'est pas seulement ce que disent les textes, mais ce que font réellement les acteurs. C'est ça le Congo. Les profs évoquent beaucoup de théories. Nous parlons de bonnes choses. Est-ce que ce que nous disons en termes de théorie se marie avec la réalité? Cela passe par le contrôle. La vraie politique monétaire consiste à descendre sur terrain, à voir si les taux fixés par la Banque centrale est respecté par les opérateurs d'échange, à voir si ceux qui opèrent dans le domaine d'échange ont des agréments de la Banque centrale, à voir si les opérateurs économiques fixent des prix par rapport aux marges bénéficiaires prévues. Dès lors, il n'y a pas ces contrôles, on fera toujours la même chose. Autre cause, il y a la dollarisation de l'économie congolaise. Les profs n'en ont pas fait allusion. Aujourd'hui, la loi est claire. Les prix doivent être fixés en francs congolais. Les salaires doivent être pris en francs congolais. Mais tout le monde, le Congo, est payé en dollars. Le dollar a dominé les francs congolais. Comment voulez-vous, dans un État où le dollar est surpeuplé, qu'on puisse parler de la stabilité monétaire? Qu'on pense aussi à cela. Voilà pourquoi je salue M. Vital Kamerhe, qui a pris comme ligne de mesure qu'on puisse payer les impôts en francs congolais. C'est une mesure efficace. Mais s'il n'y a pas suivi et contrôle, on fera tout de même.
On fera toujours les mêmes choses. On va faire
dernière chose définie par la GIR,
oui, c'est
le caractère informel de notre économie. Mm-hmm. Aussi longtemps que la majorité des opérateurs d'échange et de l'économie ne sont pas formels, on tournera. Le circuit économique voilà. est fait de plusieurs étapes.
Quand vous parlez de cet aspect de caractère informel, là je renvoie les auditeurs à plusieurs ouvrages publiés par professeur Boba Wakayembe, et qu'on a dû qualifier à un certain moment de les spécialistes des secteurs informels, et qui voulaient vraiment à tout prix pour qu'on arrive à stabiliser la monnaie, ou encore à rendre notre économie plus efficace, de pouvoir travailler à formaliser les secteurs informels. Merci beaucoup. On va revenir au professeur Noël Chani d'un moment à l'autre, mais il est temps de prendre à leader. Merci beaucoup. Beaucoup, Alidor, Omar Kigalo d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Alidor, vous êtes à Kinshasa. Alidor, à Kananga, pardon. Alidor, bonjour.
Bonjour, monsieur Gérard, bonjour au professeur qui est invité ainsi qu'à tous les prédécesseurs et tous les auditeurs de la radio Katine.
Votre réaction.
Nous disons, monsieur Gérard, l'appréciation du franc congolais, mythe ou réalité. À ce jour, on a raison de dire que c'est une fiction parce que quand il y a appréciation du franc congolais, cela va se faire voir sur le marché congolais. Mais vous allez vous rendre compte que la donne est restée la même. Sinon, il y a même certains prix de certains produits ou certains denrées qui sont toujours en train de galoper des prix ou qui ont gardé leur prix. Alors, à quoi bon parler de l'appréciation de la monnaie congolaise? Ça, c'est de un messager. De deux, le secteur monétaire fait partie des attributs de la souveraineté d'un État. Mais dans notre pays, cela est rendu libéral. Donc, on a libéralisé le secteur monétaire. Aujourd'hui, à tout bout de champ, chacun fixe les taux des dollars comme bon lui semble. Donc moi j'ai tel taux, vous avez aussi tel taux, et la banque centrale semble ne pas en faire son problème. Les banques commerciales ont leur taux, la DGRAD même a son taux à lui, monsieur Gier. Donc tout ça amène la cacophonie par rapport à la dépréciation du franc congolais. Et troisièmement, monsieur Gier, vous allez aussi vous rendre compte de la dollarisation du marché congolais. Aujourd'hui là, partout, les prix sont fixés en dollars. Même quand on vous dit que le paiement des impôts et taxes se fait en franc congolais, mais non. Il y a un arrêté interministériel qui venait d'être publié, donc rendu public par le ministère de Finances, Économie et que sais-je encore. On a fixé le taux de taxes et impôts en dollars. Et quand les agents quand les agents de différentes régies financières passent pour recouvrer l'argent, ils les recouvrent au taux exorbitant qui ne correspond même pas au taux de la Banque centrale. Donc, monsieur Gérard, tout ça, ça fait que le franc congolais ne puisse pas reprendre sa forme. Et si on veut aujourd'hui que le franc congolais puisse reprendre sa forme, il faut d'abord que la Banque centrale puisse jouer son rôle en tant que première autorité monétaire. Fixer le prix, faire le suivi, fixer le taux, imposer cela, monsieur Gérard, et donc pas seulement subir. C'est que nous, la population est en train de subir. On subit les dictats des opérateurs économiques. On subit aujourd'hui la léthargie ou bien la mollesse de la part de la Banque centrale et de certaines autorités. Et c'est de quoi maintenant le franc congolais, c'est toujours comme ça, comme on est en train de le vivre là. Aujourd'hui, on vous parle de 250. Et à la lire, on voit les choses. Nous redoutons que dans un futur très proche, qu'on puisse encore enregistrer la dépréciation plus grave que celle qu'on avait enregistrée, parce qu'on sent que du côté opérateur économique, du côté certaines autorités ou certaines sociétés, il y a la résistance, mais c'est GR. Dernièrement, si je ne peux que vous donner un petit exemple, je pars pour faire l'abonnement de mon canal plus en franc congolais. On m'a imposé les taux, on me dit non, les dollars, quand moi j'ai dit non, les taux c'est 230, on me dit non, chez nous ici nous avons 260. Donc c'est vérifiable, mais c'est bien sûr, aujourd'hui vous voulez m'acheter des crédits, si vous voulez acheter certains services, on vous taxe au prix, où vous demandez, mais les autorités, nos autorités, ils font quoi? Même le prix des crédits est resté le même. Aujourd'hui, là, quand vous voyez Monsieur Gérard, donc nous nous rendons compte, comme le professeur l'a dit, cette appréciation ne vit que dans l'imaginaire, parce que le marché congolais, dans le panier ménager, on n'a pas senti ça, et nous voulons vraiment que cela s'actualise en réalité et en acte. Merci
beaucoup, Maître Alidor Mampouya, d'avoir appelé de Kananga. Alors, Peter Maboudi, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Peter, et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capu ainsi qu'à notre invité.
Quelle est votre réaction? Est-ce que vous pensez que l'appréciation de la monnaie locale est vraiment réelle? Ce n'est pas une fiction, comme l'a dit Maître Alidor.
Non, monsieur Jure, je pense que la question de monétaire, de dollars, surtout, c'est un problème qui concerne l'Afrique en général. Hein. Tous les États africains ont un problème de monnaie étrangère, vu non seulement à la guerre, à la situation des guerres, et également aussi à la situation sanitaire qui a prévalu et de Covid. Mais cependant, chaque État a ses réalités qui, des fois à l'interne, devront être accompagnées de mesures des dirigeants des pays, bien sûr, pouvant contribuer à maintenir les taux d'échange et également aussi régulariser les secteurs des marchés d'échange sur le marché et également sur le marché financier. En ce qui concerne notre pays, M. J.E., j'épouse le point de vue de M. Omar et également de notre invité. Parce que quand on prend des mesures politiques, au lieu de prendre des mesures qui devront être admises dans une économie normale, je pense que nous allons toujours vivre des fictions, comme Maître Aridor venait de le dire. Et moi, je pense que cette décision qui a été, les décisions qui ont été prises par le gouvernement, M. J.E., ce sont des décisions politiques. Justement, vous avez rendu, vous êtes journaliste, vous avez compris qu'après la mesure prise par le gouvernement, il y a eu des débats qui ont eu autour des hommes politiques pour chanter que voilà, le taux est abaissé, c'est dans les cas, tout ça. Au lieu de prendre des mesures qui devront être comme mesures de résoudre des problèmes, mais ce sont des mesures qui ont été prises justement pour se faire un nom. Mais je pense que Maître Omar a parlé un problème très capital, M. Juillet. La monnaie étrangère dans notre pays constitue un marché pour les cambistes et également aussi pour les opérateurs économiques. Alors que la monnaie étrangère dans un État, M. J.R., a pour rôle de régulariser le marché, le commerce extérieur. Quand il y a un commerce extérieur, c'est-à-dire la monnaie étrangère doit permettre aux opérateurs économiques d'un État pour s'approvisionner en marchandises en extérieur, en importation. Mais nous constatons que notre monnaie n'a pas de présence sur le marché en interne et notre monnaie facilite non seulement les échanges en interne, mais est en train de perdre sa valeur. Aujourd'hui, à Kinshasa, M. J.R., le loyer pour beaucoup de personnes, ils payent en dollars. Mais je me demande si le loyer d'une maison en Kinshasa doit se payer en dollars alors qu'on est en vie au Congo. Donc ce sont des mesures que le gouvernement devrait prendre justement pour résoudre un problème. Quand il n'y a pas une loi pouvant autoriser d'abord ceux qui sont censés régulariser le marché dans les marchés d'échange, ces gens-là ne sont pas bien identifiés et les cambistes en profitent. Et au bénéfice de
oui, alors moi, disons, après avoir écouté, après avoir écouté notre invité, Peter Mabudi, est-ce que vous avez l'impression, comme l'a dit notre invité, et là on se retrouve face à une situation qui est un peu compliquée parce que c'est l'autonomie de la Banque centrale. Le fait que c'est la politique du gouvernement qui impose à la Banque centrale comment réguler les secteurs monétaires, et c'est ce qui pose problème. Est-ce que vous partagez cet avis?
Je partage, je pose le point de vue. Mais je jure, le professeur Mabimoul a écrit dans son ouvrage « La monnaie dans l'économie ». Donc, la monnaie joue un rôle dans l'économie d'un pays. Mais il y a des personnes attitrées qui sont censées gérer la monnaie dans un État. Et la Banque centrale reste la seule institution qui est reconnue dans notre constitution, comme l'invité l'a évoqué, pour régulariser le secteur de la monnaie. Mais quand on mélange les techniciens avec la politique, M. J.R., et la politique domine sur les techniciens, ça va poser toujours des sérieux problèmes sur la gouvernance de notre pays.
Merci beaucoup.
J'ai un témoignage de certains amis
oui. Qui
quittent avec un V dollar ici à Kinshasa pour traverser Brazzaville. Il rentre avec les 20 dollars parce qu'il n'a pas un endroit où aller changer. Les dollars, c'est genre dans les banques. Mais ici, n'importe quel individu, n'importe quelle maison de vente fixe les taux de change pour changer de l'heure. N'importe qui se lance dans ce marché, mais on vit aussi des autorités que nous avons. Donc, c'est ça le plus grand problème. Et quand il n'y a pas de contrôle, comme Omar l'a évoqué, mais nous n'allons pas vivre de ce que nous attendons de ces mesures qui ont été prises.
Voilà, il y a beaucoup de choses à dire autour de cette question. Je crois que ça nous met la puce à l'oreille parce qu'il faudrait que dans les prochains jours, nous pensions également faire un débat sur la sécurisation de l'épargne dans nos différentes banques commerciales parce qu'aujourd'hui, les épargnants éprouvent énormément de difficultés. La Banque centrale impose pas mal de taxes qu'on doit soutirer auprès des épargnants. Alors déjà, épargner, c'est un problème. Et pour prendre cette culture de l'épargne, ça devient encore plus compliqué. Merci beaucoup, Peter Mabudi. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Allô? 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 c'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
je
à ça.
Je suis vraiment ravi par la pertinence de
habitants de toutes les provinces. Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience
qu'il n'a pas bien travaillé.
Le intouchable, dans ces pays, n'existait pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Professeur Noël Tchani, Modian Vita, vous venez de suivre cette série des auditeurs. Vous avez peut-être un mot à placer par rapport à leurs interventions. Mais je reviens sur ma question posée tout à l'heure sur l'offre et la demande. Un des principes importants de l'économie.
Oui, il est tout à fait vrai que pour qu'on ait une stabilité de la monnaie dans un pays comme la RDC, il est important qu'il y ait un équilibre entre l'offre et la demande des devises étrangères par rapport à la monnaie locale. Beaucoup de gens ont mentionné que nous sommes une économie extravertie. Nous importons un peu de tout, de la nourriture, des biens d'équipement, mais nous exportons aussi des minerais, des matières premières. Donc, il faut que les devises étrangères que nous gagnons en exportant entrent déjà en RDC. Je constate un problème au niveau de ce qu'on appelle le code minier et de la réglementation d'échange. Il autorise aux compagnies minières qui exportent de rapatrier au Congo 60% de leurs recettes d'exportation en gardant à l'extérieur 40% soi-disant pour pouvoir faire face aux besoins d'achat d'équipements, mais aussi de remboursement des dettes. Et j'estime que c'est une aberration. Il est important que nous puissions reviser cette disposition-là pour que tout le monde, toutes les compagnies qui exportent à l'extérieur, rapatrient 100% des recettes d'exportation au Congo, que ces recettes-là aillent alimenter les réserves d'échange de la base centrale. Mais chaque fois qu'une compagnie a besoin d'importer des biens d'équipement ou bien de payer la dette, qu'on puisse lui donner priorité pour qu'elle puisse avoir accès aux réserves de charges donc, là, auxquelles elle a donc contribué. Ça, c'est un. Deux, il y a un intervenant qui a beaucoup souligné, il a utilisé des mots très durs à l'égard de la Banque centrale. Il a dit que la Banque centrale, la réalité n'existe que de nom. Je suis tout à fait d'accord avec cette évaluation-là. Dans un moment comme celui-ci, on devait entendre la Banque centrale partout. Et les mots qui sortent de la bouche de la Banque centrale devaient avoir beaucoup de crédibilité si ce qu'elle dit se traduit par la réalité donc sur le terrain. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est tout le monde qui est devenu spécialiste de la monnaie. Ce n'est plus la Banque centrale qui gère la monnaie, c'est devenu toutes les institutions de la République et même des institutions qui ne devraient pas donc s'y mêler. Il y a une raison pour laquelle ceux qui ont inventé des banques centrales ont voulu donner à la Banque centrale l'indépendance. C'est parce qu'on veut que, surtout dans une période préélectorale, que ceux qui dépensent l'argent, c'est-à-dire le gouvernement, ne soient pas associés aussi aux décisions de comment il faut gérer l'argent, c'est-à-dire la Banque centrale. Au Congo, on semble pouvoir faire la confusion. Et cette confusion-là n'est pas de nature à pouvoir rassurer les marchés, rassurer les publics, que l'argent du Congo est géré correctement. Par conséquent, j'appelle tout le monde à revenir à la raison. La raison, c'est de reconnaître l'indépendance de la banque, de laisser la Banque centrale faire son travail. Et si elle ne fait pas son travail, c'est que peut-être les gens qui sont à la Banque centrale ne sont pas à la hauteur pour faire le travail pour lequel ils ont été mis là-bas. Par conséquent, il faut envisager donc des changements à ce niveau-là. Mais il ne faut pas tourner autour donc du pot.
Alors est-ce que la mobilisation des recettes est inventée aujourd'hui? Tout le monde constate qu'effectivement, au niveau des régies financières, il y a des efforts qui sont consentis. Est-ce que cela n'a pas eu un impact sur l'appréciation de la monnaie?
Bon, il y a des efforts qui sont consentis. Je voudrais saluer le travail que fait l'IGF, mais en même temps aussi, je voudrais exprimer une inquiétude. Parce qu'on a l'impression maintenant que l'IGF est devenu le chien à tout faire, quoi. Même aller s'installer donc au sein de la Banque centrale, je ne crois pas que c'est comme ça donc qu'il faut gérer les institutions. L'IGF doit rester dans ce bâtiment, aller faire des patrouilles, revenir et laisser les gens travailler. Mais se mêler de tout, je pense que ça crée beaucoup de confusion.
Alors, la mobilisation des recettes, nous saluons tous les augmentations que nous entendons. On est arrivé pratiquement dans les environs, quand j'ai vu le communiqué publié par l'IGF tout récemment, dans les environs de 10 milliards, à peu près 5 milliards de dollars de recettes mobilisées, donc jusqu'à ce stade-ci. Nous saluons ces efforts-là. Sauf que ce sont des efforts qui restent en dessous des prévisions. D'où j'en appelle à la préparation de ce que j'appelle un budget rectificatif. Tant que nous n'avons pas de budget rectificatif qui tienne compte des réalités sur le terrain, du fait que les recettes sont en dessous de ce qu'on avait prévu avant et qu'on continue à maintenir le niveau de dépenses très élevé, il y aura toujours un déficit budgétaire énorme qu'il faudra financer en faisant recours donc à la planche à billets et qui entraîne la dépréciation monétaire. Donc, il faudrait que tout le monde revienne à la raison et qu'on puisse donc oublier les élections qui arrivent, mais faire donc des choses correctement comme ça doit être fait si on doit donner au peuple congolais une monnaie stable et qui préserve le pouvoir d'achat.
Voilà. Alors, on va évoluer avec d'autres auditeurs qui nous ont rejoints. Nous vous gardons en ligne, professeur Noël Tchani, Modi Invita. Sylvain Indji, qui est à Kisangani, nous a rejoint. Sylvain, vous êtes avec nous.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à vous, les auditeurs de Noël Tchani.
Alors, il y a des bruits désagréables autour de vous. Sylvain, vous avez la parole. Éloignez-vous un peu de votre poste récepteur. On va essayer de voir si cela va s'améliorer.
Là, ça va.
Non, par respect de nos auditeurs, on ne saura pas vous garder le plus longtemps possible. On va vous rappeler peut-être après. Kalokaloji, vous êtes en Bujimaï, mais là, vous séjournez à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, monsieur Gilles. Bonjour aux auditeurs et à votre invité, monsieur Noël Tchani.
Votre réaction?
Je pense qu'il faut retenir une chose. Ce que nous vivons actuellement, ce sont des solutions conjoncturelles et non structurelles. Vous allez vous rendre compte que ce que nous vivons actuellement, c'est un arrêt de la dépréciation. Ce que vous appelez appréciation de la monnaie nationale. Mmh. Pourquoi je l'ai dit? Nous avions assisté à une montée très en vitesse et pour le moment, vous vous rendez compte qu'il y a un peu une stabilité. Ici, nous ne pouvons pas à des moments dire que non, il y a une appréciation. Parce qu'il faut vous rendre compte que la Banque centrale du Congo, ce que moi je connais, il a lancé une somme d'argent. C'est sa terre de réserve et c'est là aussi à ce que la monnaie étrangère soit sur les marchés. Mais ce qu'il faut aussi craindre, c'est quoi, M. Juez? Si le gouvernement ou la Banque centrale ne tire pas attention sur l'évasion d'abord de ces dollars lancés sur les marchés, parce que nous n'avons pas la capacité de maintenir cette monnaie dans nos marchés. Alors cela va aussi nous amener dans les pires de ce que nous avons déjà vécu. Mmh. Pourquoi? Parce que et même les fonds lancés là, ils ne savent pas la sortie de ces fonds-là. Ce qui est reconnu dans l'économie d'une manière générale, ce qui nous pose problème au Congo, c'est le manque de la production nationale. Parce que si nous produisons ici et que nous vendons à l'extérieur, voilà comment nous devons ramener les dollars chez nous. Mmh. Mais ce que nous avons comme réserve ici, moi je pense que c'est venu à travers le FMI. Et la Banque mondiale, je ne sais pas, dans des prêts, dans des dettes déjà de notre République. Alors, c'est pourquoi moi je me dis, regardez, nous avons toujours dit que l'économie est réelle et non fictive. Sur les marchés, qui peut me dire aujourd'hui les taux réels? Parce que la Banque centrale du Congo a un taux, ici je suis à Kinshasa, je suis en train de vivre du n'importe quoi. Le taux des dollars n'est pas fixe. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, même dans tel marché, vous trouvez qu'il y en a qui parlent de 240, mais aussi longtemps que la Banque centrale du Congo, si je ne me trompe pas, c'est à 250. Je ne vois pas l'évolution. Il faut s'attendre que d'ici là, si on ne tire pas attention, avec la Banque centrale du Congo, on aura assisté encore à une montée. Mais là, il faut revenir sur nous les Congolais, les petits peuples. Qu'est-ce que nous gagnons dans tout ça? Dans tout ça, aller sur les marchés, il n'y a rien de changement en termes de prix. Parce que quand nous voulons voir l'appréciation des francs congolais, il faut aussi le vivre dans nos paniers ménagers. Mais actuellement, les mêmes prix qui existaient existe encore. Et alors, je me dis maintenant, au niveau de la Banque centrale, est-ce que la Banque centrale maîtrise bien son secteur? Parce que c'est tout le monde qui est en bise. C'est tout le monde qui doit faire les échanges plutôt. Alors, je demande à la Banque centrale du Congo, à travers la dame gouverneur, c'est d'ailleurs d'accueillir effectivement des gens qui doivent vraiment nous donner les vrais taux. Ce n'est pas quelqu'un qui serait, parce que le parallèle a un pouvoir, plus que ce que nous vivons de la Banque centrale du Congo. Les parallèles se donnent les lignes, se définissent les taux comme ils le veulent. Alors, à ce moment ici, je trouve que c'est la Banque centrale du Congo qui est défaillante. Pourquoi? Parce que elle ne maîtrise pas son secteur.
Merci
si
beaucoup.
La Banque centrale, oui.
Merci beaucoup, Kalou. Alors, on va écouter Patrick Odia. Patrick Odia qui nous a également rejoint. Patrick, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Vous avez également la parole. Quel est votre point de vue?
JR, la stabilité de la monnaie en RDC devient une maladie courante. Et j'estime que ce n'est même pas ce régime. C'est un problème qui date de longtemps. Et les causes, avant qu'on puisse proposer des solutions, il faudrait repérer ou identifier quelques causes également, lointaines tout comme ici. Je parle également de la non-productivité, de la non-production de matières ou de marchandises au niveau local ou au niveau national également. Lorsqu'on favorise l'importation, cela a beaucoup plus de conséquences sur le plan économique. Ça, c'est de un. De deux, lorsque la Banque centrale essaie de défaillir ou d'avoir des faiblesses dans ses missions régaliennes, notamment des régulations du système monétaire, n'a pas du tout le monopole sur le contrôle des cambistes, les échangeurs de monnaie également. Si un bon matin, ils peuvent se réveiller et nommer. Et tout ceci, c'est le manque de réglementation rigoureuse en matière monétaire également. J'estime que le régime flottant qui est appliqué en RDC aujourd'hui est devenu obsolète, d'autant plus qu'il faudrait bannir le principe du libéralisme monétaire et intervenir à instaurer les régimes fixes avec l'intervention monétaire étatique. Ça sous-entend qu'on doit identifier, l'État doit fixer un barème ou les barèmes de marché financier économique. Ça, c'est au moins de manière quelque chose qu'on peut ramasser ceci. Mais est-ce que vous demandez des mesures prises par le gouvernement sont-elles, j'allais dire, éphémères? Mais oui, ce sont des mesures éphémères, d'autant plus qu'il n'y a pas eu l'impact. Si peut-être on pouvait parler des changements, appréciation des francs congolais, une semaine, deux semaines. Mais aujourd'hui, allez-y au marché, je viens d'échanger tout à l'heure, c'est toujours 2500 pour nous qui sommes ici à Lubumbashi. Voyez-vous que ce sont des mesures éphémères, très éphémères même, parce qu'il n'y a pas deux semaines ou il n'y a pas trois semaines qu'on a eu à parler de la prestation. Mais aujourd'hui, il y a eu la dépréciation. D'où nous proposons, nous estimons qu'il faudrait changer les régimes ou la réglementation du régime financier et régime monétaire en RDC en passant par du régime flottant vers des régimes fixes.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick Odia, d'avoir complété vos compatriotes, d'autres compatriotes qui ont intervenu avant vous. Alors, on revient à vous, professeur Noël Tchani. C'est vrai, faut-il changer le régime monétaire lorsque Patrick Odia évoque le régime flottant et le régime fixe?
Non, je ne crois pas que ce soit nécessaire de changer le régime monétaire, de passer du régime flottant au régime fixe. Pourquoi? Parce que les exigences du régime fixe sont plus ou moins les mêmes que celles du régime flottant, mais si on n'arrive pas à les respecter actuellement, on ne pourra pas les respecter pendant longtemps pour garder le taux d'échange fixe. Alors, quelles sont les exigences? Moi, personnellement, je considère que les fondamentaux exigent qu'on ait une économie qui tourne, qu'il y ait une économie diversifiée, une économie qui exporte, qui gagne des devises étrangères. Mais en plus de cela, il faut qu'on reconnaisse, je souligne, l'indépendance de la Banque centrale. Aujourd'hui, la Banque centrale est devenue l'ombre d'elle-même. Elle n'existe pas. Regardez-moi dans un débat comme celui-ci. Vous n'entendrez pas la bouche de la Banque centrale. Alors, si on ne peut pas avoir une monnaie crédible, une monnaie stable, si l'institution qui est supposée gérer la monnaie n'est pas à la hauteur pour pouvoir faire ce travail-là. Et très clairement, aujourd'hui, les Congolais sont conscients que la Banque centrale du Congo n'est pas à la hauteur. Donc, on ne l'entend pas dans les débats. Elle se fait convoquer comme n'importe quelle institution, au même titre que la FEC, au même titre que l'IGF, alors que c'est elle qui devait être la maîtresse de l'ouvrage. Par conséquent, il faut revenir aux fondamentaux. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, tenir compte des compétences, et laisser les gens travailler comme il se doit. Maintenant, si on doit changer de régime passer du régime d'échange fixe vers le régime d'échange fixe, il faudra aussi respecter un certain nombre de règles. Les règles que nous respectons pas aujourd'hui, et par conséquent, ça ne vaut pas la peine.
Alors, juste une question de curiosité avant qu'on puisse se séparer, avant qu'on puisse clore cet entretien avec vous, professeur Noël Mwanjavita. Lorsque, en économie, on parle de la mauvaise monnaie qui chasse la bonne, voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quelle est cette mauvaise qui chasse l'autre en RDC?
Ça, c'est une très bonne question. J'en ai discuté. Je vous informe que je suis à Mbujimayi actuellement, à l'université officielle de Mbujimayi. Je suis venu donner le cours de questions spéciales de théorie monétaire. On a abordé cette question avec mes étudiants. Alors, la loi de Kretschmann... Donc, la mauvaise monnaie, dans un pays, il y a deux monnaies en circulation. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Quelle est la bonne monnaie en République démocratique du Congo? La bonne monnaie, c'est celle qui est reconnue par la Constitution. C'est le franc congolais qui devait être la bonne monnaie en République démocratique du Congo. Mais la mauvaise monnaie, qui est le dollar, chasse la bonne monnaie qui est légalement reconnue, d'où le phénomène de la dollarisation. On se retrouve aujourd'hui avec 95% des actifs financiers détenus en dollars américains contre simplement 5% en monnaie locale qui est donc le franc congolais. D'où l'inefficacité de toutes les mesures de politique monétaire prises par la Banque centrale. Parce que quand la Banque centrale vous dit qu'elle a augmenté le taux directeur de 11% à 25%, cette augmentation-là concerne la masse monétaire en francs congolais. Or, les gens, les transactions en francs congolais ne représentent que 5% du total. D'où ce qu'on peut faire sur 5% ne peut pas changer fondamentalement la situation générale du pays où c'est le dollar américain qui est donc le plus utilisé. Donc, pour revenir à la loi de Kretschmann, la bonne monnaie doit être toujours le franc congolais qui est légalement reconnu par la Constitution. Et la mauvaise monnaie, qui est le dollar préféré par la population, parce que la bonne monnaie ne semble pas jouer le rôle, les trois fonctions essentielles de la monnaie, de réserve d'échange, de facilité donc les transactions, d'être l'unité de compte. Par conséquent, le public congolais s'est replié sur le dollar qui semble pouvoir réunir ces caractéristiques-là. Je rappelle donc à un programme de réforme de la Banque centrale, un programme de réforme de l'économie, un programme de réforme de la monnaie, si nous devons donner au peuple congolais une monnaie crédible, stable, qui va préserver le pouvoir d'achat de tout le monde pendant longtemps.
Voilà, j'aurais bien voulu terminer également avec cette question, parce que beaucoup d'économistes en RDC parlent de l'économie du Congo, l'économie aujourd'hui qui tourne à merveille, avec des indices palpables, où il y a des constructions des immeubles, les routes sont construites, et voilà, les choses sont palpables, ce qui fait que notre économie peut être, la performance peut être jugée avec un level high.
L'économie du Congo, d'abord je voudrais que les gens sachent que le Congo n'est pas Kinshasa. Hein. Et quand vous arrivez à Kinshasa, les immeubles dont on parle, c'est autour donc du boulevard du 30 juin. Ce n'est même pas donc dans toute la République. Je suis actuellement en Mbujimayi. Je suis désolé de vous dire que je constate que dans le Grand Kassai, l'économie est à l'arrêt. Il n'y a pas de grandes initiatives qui permettent de créer des opportunités pour tout le monde, de faire tourner l'économie comme il faut. D'où je viens d'annoncer, et je vais faire une conférence de presse peut-être donc d'ici vendredi, un mini plan Marshall pour relancer l'économie du Grand Kassai, qui implique quoi? Qui implique, un, la construction de 3 ou 4 routes connectrices qui relient toutes les 5 provinces qui constituent le Grand Kassai. 2, la construction des barrages électriques. On a identifié 4 barrages hydroélectriques, Katiende, Mushi, Akabinda, Kafumbu, Anganaïje, Kapetiala, ici, pour donner de l'eau, de l'électricité à tout le monde. Ce n'est pas normal qu'au XXIe siècle, qu'on ait des gens qui boivent encore de l'eau qu'on transporte dans les bidons. Et on ne peut pas parler d'une économie dans ces conditions-là. 3, il faut voir maintenant les activités productives qui vont créer des emplois pour les gens. Et en ce qui concerne le Grand Kassai, au-delà du développement du secteur agricole qui présente de grandes opportunités, moi je pense il ne faut pas oublier donc la MIBA. Il faut restructurer la MIBA, il faut restructurer le secteur du diamant parce que l'économie de cette partie de du territoire national est basée donc sur ça. Il faut restructurer la MIBA et toutes les sociétés qui étaient liées donc à la MIBA si on veut donc relancer l'économie dans le Grand Kassai. Alors, on va faire cet exercice-là aussi en élargissant au niveau national.
Pour merci beaucoup, professeur Noël Tchani. On ne saura pas aller plus loin. Merci d'avoir accepté notre invitation pour intervenir dans cette émission. Merci à tous les auditeurs qui ont parlé au cours de ces débats. On se retrouve demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.